Radio Capi. Oh, Capi. Le journal, présenté par Belinda Bossouma.
Devait-on assister à l'occupation de Goma et de Bukavu et à la perte tragique des vies humaines avant d'admettre l'évidence d'un dialogue direct avec l'AFC M23? La société civile Force vive de la RDC dit regretter le retard accumulé avant la signature de la déclaration conjointe gouvernement AFC M23 sous la médiation du Qatar. Lancement de la campagne sur la Semaine mondiale d'action pour l'éducation SMAE 2025 RDC. Une réunion de concertation et de mobilisation de tous les acteurs éducatifs a eu lieu hier à Kinshasa. Objectif, fixer le public sur la prise en compte de l'éducation en situation d'urgence. Et puis, ce matin, nous recevons Papi Kasereka, chercheur spécialisé sur les questions sécuritaires au Nord Kivu. Il revient sur la déclaration conjointe gouvernement congolais AFC M23 signée cette semaine sous la médiation du Qatar. À tous et à toutes, bonjour. La société civile Force vive de la RDC dit regretter le retard accumulé avant la signature mercredi de la déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation du Qatar. Nous regrettons qu'il ait fallu attendre plus de 3 ans pour que l'évidence d'un dialogue direct avec l'AFC M23 soit enfin reconnue, indique-t-elle dans un communiqué de presse rendu public hier jeudi. Devait-on assister à l'occupation des villes de Goma et de Bukavu, à la perte tragique des vies humaines ainsi qu'à la destruction des infrastructures essentielles avant d'admettre cette nécessité, s'indigne-t-elle. Selon elle, la population congolaise attend plus que ça. On écoute à ce sujet Maître Jean Bosco Lalo, premier vice-président national et porte-parole de la société civile Force vive de la RDC.
Nous souhaitons rappeler à l'opinion nationale et internationale que la population congolaise ne trouve pas ses intérêts directs dans cette déclaration conjointe. Elle attend des réponses concrètes à ses souffrances, notamment par le respect de l'ordre constitutionnel, et exige également que les responsables de son malheur soient tenus pour comptables de leurs actes, qu'ils aient agi par action ou par omission. Enfin, nous sommes convaincus que seules les discussions inclusives réunissant tous les Congolais, la société civile, comme l'opposition armée, peuvent apporter des solutions durables à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays.
Entre-temps, des exactions commises par des hommes armés se multiplient contre la population civile dans le sud Kivu. Un agent des services de renseignement ANER a été grièvement blessé à son domicile à Bukavu dans la nuit de mardi à mercredi. Puis un corps sans vie a été retrouvé gisant dans le sang hier au quartier Nkafu sur la nationale numéro 2. Le même jour, un agent chargé de la logistique à la CENI, antenne de Calais, a été arrêté et molesté après la mise à sac du matériel électoral. Les cas d'exactions sont légion dans cette province sous occupation des rebelles AFC M23. Stanislas Diumi nous en parle.
Hormis les actes de commission de meurtre, des vols et des viols commis par les hommes armés dans différentes entités de la province du Sud Kivu, les défenseurs de droits humains soulèvent également les opérations de recrutement forcé de jeunes aussi du mouvement rebelle. Le site minier de Luhihi dans le territoire de Calais était la cible de telles opérations hier. Des jeunes creuseurs artisanaux ont été recrutés moyennant une motivation matérielle de $10 américains. Les résistants étaient priés de quitter ces puits miniers sans condition. La ville de Kavumu, située non loin du puits d'or de Luhihi, enregistre régulièrement des incursions d'hommes armés. À part les armes, ce groupe de bandits non autrement identifiés se sert de monteurs à souder pour faciliter l'accès dans des maisons en matériaux durables. Le quartier Sirato, Kakenge, Kabuga et beaucoup d'autres encore ont subi ces opérations macabres hier. Le couvent de prêtres, des sœurs religieuses et 3 résidences d'échangeurs de monnaie ont été ciblés. Heureusement, les couvents de religieux ont été épargnés grâce aux clameurs publiques.
Du côté du Congo central, le président des conseillers communaux de Nzanza, Matadi, dénonce ce qui ne favorise pas le développement de son entité dans l'insécurité. Gustave Dissachi invite par la même occasion les conseillers communaux à travailler avec efficacité afin de prendre des décisions fermes dans l'intérêt de la population et pour le développement de leur entité. Demande formulée mardi dans son discours d'ouverture de la session ordinaire du conseil communal en présence des autorités politiques administratives de cette commune. Nana Plurich Mambo.
Les présidents de ces conseils communaux considèrent que les faits suivants sont de nature à freiner le développement de la commune de Nzanza. Gustave Nissa Chikalongi.
Nous observons depuis un temps les cas de viol à main armée et le théâtre de Koulouna se répète jour et nuit aux différentes bavilles, à la mauvaise gestion ou la violation flagrante des droits des citoyens.
Pour éradiquer ce qu'il qualifie de fléau qui gangrène la commune de Nzanza, il fait la demande suivante aux conseillers communaux.
Donc nous devons travailler ensemble pour répondre aux vrais besoins de nos citoyens, améliorer leurs conditions de vie et leur offrir des services de qualité. Dans cette session, nous allons travailler dur avec efficacité.
Impayé depuis 15 mois, le conseil communal de Nzanza interpelle le gouvernement congolais. Conseiller Joseph Odon Mizele.
Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de nous faciliter d'abord le cadre de travail et de nous prendre en charge pour que nous ne puissions pas être des conseillers qui mandaient. C'est un cri de détresse que nous lançons 15 mois. Il n'y a pas eu de frais d'installation, il n'y a pas eu de moulement jusqu'à aujourd'hui.
Pour cette nouvelle session, plusieurs dossiers attendent les représentants des habitants de la commune de Nzanza. C'est notamment les contrôles parlementaires sur la perception et l'affectation des impôts dans des marchés de la commune, ainsi que l'audition des rapports des conseillers communaux après les vacances. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la délégation du réseau d'affaires Makutano a apporté une cargaison des vivres aux forces armées de la RDC engagées au front dans l'est du pays. Ce don constitué de 1000 sacs de semoule, 1000 cartons de cuisses de poulet, 500 cartons de biscuits, 125 cartons de boîtes de conserve corned beef et 100 cartons de tomates a été réceptionné par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale à Kinshasa. Témoin de l'événement, Blaise Ndongalamende.
Pour la présidente du réseau Makutano, ces gestes de charité viennent en soutien à l'effort de guerre initié par les présidents de la République dans le cadre de la mobilisation générale face à cette guerre d'agression injuste imposée à la RDC. Nicole Soulou.
Nous avons voulu répondre à cet appel, donc nous sommes venus remettre quelques colis pour nos forces armées, pour leur dire c'est qu'ils ne sont pas seuls, c'est qu'on reste mobilisé derrière eux jusqu'à la dernière heure. Chaque personne devrait répondre à cet appel pour justement montrer qu'on est une nation.
Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale soutient ces gestes symboliques qui, selon lui, témoignent de la volonté du secteur privé à participer à l'effort de guerre tel que prôné par les chefs de l'État. Le patron de la Défense nationale n'a pas cependant manqué de remercier la coordination du réseau Makutano pour cet acte de bonne foi. Guy Kabombo Mwadiamvita.
Je tiens à remercier très sincèrement ce geste, combien louable au profit de nos vaillants militaires et nos patriotes volontaires pour la défense. Communément appelé Wazalendo.
À travers cet appui alimentaire, les réseaux Makutano se proposent notamment de renforcer la ration alimentaire des FARDC déployée dans les zones opérationnelles. Elle intervient près de 2 semaines après celle remise par les confessions religieuses congolaises.
Autre nouvelle, c'est parti pour la campagne sur la Semaine mondiale d'action pour l'éducation SMAE 2025 en RDC. Une réunion de concertation et de mobilisation de tous les acteurs éducatifs a eu lieu hier à Kinshasa. Objectif, fixer le public sur la prise en compte de l'éducation en situation d'urgence. C'est le cas aujourd'hui pour la RDC qui traverse une situation humanitaire aiguë affectant les infrastructures éducatives. Ceci a été évoqué lors d'une conférence de presse qui a suivi la dite réunion organisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT. Jacques Timbalanga, coordonnateur de CONEPT, explique la problématique nécessitant l'organisation de cette campagne. Propos recueillis par Askin Zibiatayoro.
Comme nous le savons, la RDC fait face à une crise humanitaire aiguë. En 2025, plus de 2594 écoles ont été fermées et la fermeture de ces écoles affecte environ 1 400 000 enfants. Le pays est parmi les plus touchés par les attaques contre l'éducation. Quand il y a la crise, souvent l'éducation est attaquée. Les écoles sont occupées, les écoles sont détruites par des bombes et même quand il y a occupation des écoles, les infrastructures scolaires sont sont pratiquement abîmés, mais les bancs pupitres sont parfois transformés en bois de chauffage. Et lorsque les élèves reviennent un temps après, ils n'ont plus où se mettre. Cette année 2025 marque la fin de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, qui est notre plan national d'éducation. Mais après 2025, on doit planifier l'éducation. Quelle sera la place de l'éducation en situation d'urgence? Nous devons donc réfléchir et donc mettre déjà quelques jalons.
Cette campagne, qui va du 28 avril au 5 mai 2025, vise à promouvoir l'éducation inclusive et équitable de qualité pour tous, en mettant l'accent sur les défis majeurs que rencontre le système éducatif de la RDC en situation particulière de crise. Au Maniema, le gouvernement provincial dote le centre des ressources pour enseignants de Kindu d'un lot important des ordinateurs et des chaises dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement. Selon le gouverneur du Maniema, ceci a été rendu possible grâce aux quotités des frais scolaires payés par les parents. La remise a eu lieu hier dans l'enceinte de l'école primaire Kinduville en présence des parents d'élèves, des autorités et des acteurs éducatifs de la place. Florence Kiza, reportage.
Pour les gestionnaires de ces centres, les dons du gouvernement provincial du Maniema est une réponse aux besoins exprimés par les enseignants. Mwelo Mulangi Filemon.
Cette donation répond aux besoins du centre des ressources pour enseignants parce que ça active les activités du centre au niveau du primaire. Les programmes de l'informatique existent, mais ces enseignants ne savent pas manipuler l'ordinateur. Et maintenant, nous avons 10 ordinateurs. Ça va nous permettre de descendre même dans les milieux pour former ces enseignants.
Pour sa part, le gouverneur met l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Moussa Kabankoubi.
Là, nous venons de doter les centres des ressources pour enseignants de quelques ordinateurs, une dizaine, et des chaises pour que les enseignants puissent préparer leurs cours et faire des recherches dans de bonnes conditions. Le souci, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement parce que déjà aux examens d'État de l'année passée, la province éducationnelle Maniema 1 n'a réalisé que 14% des réussites aux examens d'État.
Toujours dans le souci d'améliorer la qualité et les conditions de l'enseignement dans le Maniema, les gouverneurs se fixent l'objectif d'acheter chaque année 15 à 20 000 tôles pour les écoles. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Kinshasa, promouvoir une société juste et équitable, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation organisée hier en faveur des habitants de la commune de Ngaba, une activité initiée par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre du projet GAD, soutenu notamment par le PNUD, a pour cible les mécanismes communautaires et les chefs des différents quartiers. Plotin Yambenga était là pour le compte de Radio Kapi. Reportage.
Ensemble, nous devons donc dire non à la violence.
C'est par ces mots que le chef du bureau de la commune d'Ingaba, Jean-Oscar Lopaka, représentant les bourgmestres, ouvre ses assises. Devant plusieurs dizaines d'habitants de sa municipalité, il souligne la nécessité de lutter contre les violences basées sur les genres, qui selon lui constituent un obstacle au développement du pays. Laila Nyashi, coordonnatrice de l'ONG FMMD, invite les uns et les autres à s'impliquer activement pour l'élimination de ces fléaux.
La lutte contre les VBG n'est pas l'affaire de femmes seules. Elle concerne les autorités, les leaders communautaires, les femmes, les familles, les filles, mais aussi les garçons et les hommes. C'est un combat pour l'humanité, pour la paix et pour l'avenir de notre pays. Ensemble, soyons les changements. Ensemble, mettons fin aux violences basées sur les genres.
Cette sensibilisation est bien accueillie par des participants. Ces derniers saluent par ailleurs la tenue de cette activité dans leur commune.
Je ne peux que féliciter l'ONG pour la tenue de ces assises, qui a été combien bénéfique, surtout pour toutes les femmes qui ont participé, surtout les jeunes que j'ai l'honneur de représenter.
Une très grande satisfaction. Nous remercions FMMDI pour cet apport.
Des kits de sensibilisation, dont une radio, sont remis aux chefs des quartiers à l'issue de cette activité.
Direction la province de la Tchopo. 2 ans après la suspension de sa subvention dans la lutte contre le paludisme en RDC, le Fonds mondial renoue avec ses donations. Le ministère de la Santé vient de bénéficier de ces fonds à travers Sanru dans la perspective de la mise en œuvre de son projet de lutte contre le paludisme. Un atelier réunissant les services sanitaires attitrés s'est tenu à Kisangani du 22 au 24 avril courant. 5 provinces y ont participé, outre la Tchopo, le Bazouélé, le Haut-Ouélé, l'Itouri, Ituri et le Nord Kivu ont vu cet atelier être lancé de manière symbolique pour leurs entités. Selon le conseiller technique senior de Sanro, l'objectif de ce projet est de réduire la mortalité ainsi que le nombre des cas du paludisme d'ici 2028. Docteur Joris Likwela explique les objectifs de ce projet au micro de Jacques Moukonkolé.
Les objectifs, c'est vraiment s'aligner aux objectifs du plan stratégique des luttes contre le paludisme de la RDC, qui voudrait que d'ici 2028, on réduise de 70% les décès dus au paludisme et de 50% le nombre de cas de paludisme comparativement aux données de référence de 2022. Et cette projection, c'est jusqu'à 2028. Cependant, notre contribution à ces ambitions du pays vont aller du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Alors l'enveloppe, à titre indicatif, c'est 751 000 $ chaque année pour les sous-récipiendaires qui va accompagner la DPS de la CHOPO. Et cet argent, c'est vraiment pour les opérations de déploiement des intrants et d'appui à la communication et au système de santé. C'est sans compter tout le coût de l'argent qui ont été investis par les bailleurs pour acheter toutes les commodités de lutte contre le paludisme, c'est-à-dire les moustiquaires, les tests de diagnostic rapide, les antipaludiques pour les paludismes simples et les paludismes graves, la sulfadoxine pyrimethamine pour les femmes enceintes et tous les intrants de lutte contre les maladies diarrhéiques et les pneumonies que l'on met également dans les sites de soins communautaires.
Actualité internationale.
Le président ukrainien a interrompu sa visite en Afrique du Sud en raison de l'attaque aérienne massive menée contre Kiev dans la nuit de mercredi à hier jeudi. Volodymyr Zelensky estime que Moscou cherche à mettre la pression sur les États-Unis en frappant massivement son pays. Cette visite a marqué une avancée diplomatique pour le président ukrainien dans ses efforts pour contrer l'influence forte et croissante de la Russie en Afrique.
L'invité.
Le gouvernement congolais et la rébellion de l'FCM-23 ont annoncé mercredi une trêve accompagnée d'un engagement en faveur d'un cessez-le-feu. Cette déclaration conjointe marque une nouvelle étape dans les efforts de paix dans l'est du pays, mais elle relance aussi le débat sur la sincérité des parties, les actions concrètes attendues sur le terrain et le rôle que peut jouer la communauté internationale dans l'accompagnement de ce processus. Pour en parler, nous recevons Papi Kasereka, chercheur spécialisé sur les questions sécuritaires au Nord Kivu. Il est avec Martial Papi Mukeba.
Papi Kasereka, bonjour.
Bonjour.
Peut-on considérer cette volonté affichée de paix entre les gouvernements congolais et les M23 AFC comme un véritable tournant ou simplement comme une manœuvre diplomatique?
C'est la première phase dans le processus de règlement pacifique des conflits qui voudrait à ce que les acteurs puissent mettre en place des mesures de confiance qui pourront conduire au règlement pacifique des conflits. Donc, c'est déjà une étape cruciale. Ça signifie que les acteurs ont passé la première phase du conflit qui consiste à exprimer les émotions et qu'ils sont en train de vouloir dialoguer. Et les dialogues supposent qu'il y ait des mesures de confiance, que les gens essayent un peu de créer un climat plus favorable pour les règlements pacifiques du conflit. Cette étape traduit aussi la volonté des acteurs sous forme de textes, hein, parce qu'on les teste, leur volonté réelle de régler les conflits de manière pacifique. Ce qui exige, par exemple, il faut qu'ils s'interdisent un certain nombre de choses.
Exactement. Quelles actions concrètes les deux parties doivent-elles entreprendre pour que cette trêve débouche sur un cessez-le-feu durable et une paix réelle dans l'est de la RDC?
Les acteurs doivent s'interdire ce qu'on appelle le langage violent, en adoptant par exemple un langage non violent. Mais aussi, il faut que les acteurs travaillent sur les parties indirectes au conflit. Ça signifie que c'est des gens soit qui tirent profit du conflit, mais qui ne sont pas souvent visibles dès les premières vues. Dans le cas précis ici, je fais allusion particulièrement aux États qui tirent profit dans les conflits. Particulièrement, par exemple, le Rwanda doit s'interdire en échangeant avec les M23 et l'AFC un certain nombre de choses. Mais aussi, du côté de la République démocratique du Congo, nous faisons allusion ici à l'ensemble des groupes armés qui pourront être classés dans la catégorie que nous pouvons appeler aujourd'hui les Wazalendo. Ils doivent aussi s'interdire de mener des actions plus spécifiques sur le terrain pour permettre effectivement que nous puissions avoir ces climat favorable au processus de négociation essentiel pour entamer les dialogues directs.
Et après cette étape, quelle pourrait être la prochaine?
Après que les acteurs aient créé un climat de confiance, il est important que les dialogues en soi commencent. Et à ce moment, les acteurs exposent donc les faits. Ensuite, les acteurs déterminent ce qu'on appelle les enjeux ou les intérêts ou les positions. Les acteurs vont essayer donc d'élaborer maintenant, sous la médiation bien sûr, des solutions possibles pour les règlements pacifiques des conflits. Et après cette phase-là, on va donc arriver à la phase suivante qui est en fait les l'élaboration d'un projet d'accord qui va se concrétiser par la signature d'un accord.
Mais avant l'accord, il faut d'abord arriver à un accord de cessez-le-feu effectif.
Effectivement, l'accord de cessez-le-feu est dans la première phase ici dont nous faisons allusion. Ça signifie que l'ensemble des mesures de confiance dont les acteurs sont engagés pour essayer de les mettre en place, si cette volonté de règlement pacifique des conflits est respectée, ça va nous conduire automatiquement à la cessation des hostilités ou le cessez-le-feu carrément. Il y a l'affaire des routes déjà des ministres des États, que ce soit au niveau de l'EAC, mais aussi au niveau de la SADC, qui proposait effectivement, dans cette phase des mesures de confiance, à un certain moment, on a pensé même que la MONUSCO puisse, par exemple, prendre position comme force neutre, notamment à Goma, dans les sites Kivu, dans les zones qui sont occupées pour l'instant. Donc, c'est très important qu'il y ait une force d'interposition dans cette phase des mesures de confiance, ce qui fait que c'est un processus, ça peut prendre le temps, mais c'est très important qu'il y ait une force neutre qui n'est pas pro-X ou pro-Y, il faut qu'il y ait des forces neutres qui vont continuer à assurer la sécurité des zones et des personnes et de leurs biens dans ces zones qui sont sous contrôle pour l'instant.
Quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer à ce stade pour aider le gouvernement congolais et la FCM23 à parvenir à un accord mettant fin aux hostilités?
La communauté internationale a un rôle crucial à jouer, que ce soit logistique, que ce soit favoriser les pourparlers, les rapprochements, les dialogues et tout le reste. Et particulièrement, il y a des pays qui ont joué un rôle clé, notamment la Grande-Bretagne, aussi la Belgique, y compris les États-Unis. Donc, ils doivent maintenir la pression en fonction des leviers à leur disposition, parce qu'il y a des leviers sur lesquels ils peuvent appuyer. Par exemple, nous savons que si on appuie sur les leviers finances du Rwanda, ça fait en sorte que le Rwanda fléchit. Et c'est ce rôle-là que la communauté internationale doit continuer à jouer pour permettre à ce qui est l'issue pacifique de ce conflit. C'est très important et j'ai fait allusion particulièrement aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la Belgique, parce que nous savons que ces pays ont suffisamment de leviers pour faire pression, non seulement sur la partie congolaise, mais aussi sur la partie rwandaise, mais aussi sur l'ensemble des groupes armés. Parce que vous savez que l'Union africaine, par exemple, recommande notamment problème africain, solution africaine, mais nous avons observé que l'Union africaine n'a pas été jusque-là à mesure de stopper ou de proposer des solutions plus concrètes ou l'adhésion des acteurs en conflit. Il faut être réaliste. C'est vrai qu'il y a des mécanismes au niveau régional, mais aussi au niveau sous-régional. Mais jusque-là, nous pensons que les mécanismes Qatar fonctionnent mieux.
Papi Kasereka, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.